Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première Maté Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Michel-Eugène Chevreul pour parler chimie des matériaux dans toute sa diversité. Alors je me présente, je suis Maxime Traîneau, chargé de médiation scientifique pour cet institut et je vais vous inviter à découvrir ce domaine de recherche qui, vous allez le voir, touche à plein d'aspects de votre quotidien. Et surtout, dont les travaux contribuent à réaliser les transitions écologiques, énergétiques et économiques qui sont nécessaires pour rendre notre société plus résiliente et plus durable. Alors, je l'évoquais au début, c'est l'Institut Michel-Eugène Chevreul qui vous propose cette plongée au cœur de la matière. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, l'Institut est en réalité ce qu'on appelle une fédération de recherche qui est un regroupement de plusieurs laboratoires de la métropole lilloise, vous l'avez compris, sur la chimie des matériaux. Alors c'est un institut qui est public, hein, puisque nous sommes sous tutelle du CNRS, de l'Université de Lille, de Centrale Lille, de l'Université d'Artois et d'INRAE. Et c'est un institut qui a pour objectif de développer et de renforcer le secteur de la chimie et des matériaux sur la métropole, mais aussi sur la région. Alors pour y arriver, on va en fait structurer et gérer tout un parc d'instruments scientifiques de pointe qui permettent vraiment de sonder la matière de mille et une manières, et ce, jusqu'aux atomes. Alors, l'Institut porte aussi de nombreux projets scientifiques importants qui permettent de répondre à de nombreuses problématiques sociétales actuelles, et on en a notamment un qui s'appelle le projet CHEMACT, qui cherche à développer les matériaux du futur tout en améliorant leur processus de synthèse et de fabrication, ainsi que leur recyclage. Et bien sûr, pour faire tourner tout ça, nous avons de nombreux chercheuses et chercheurs qui travaillent à l'Institut, et en particulier des doctorantes et des doctorants qui travaillent sur des sujets passionnants. Et cette Maté Radio, c'est ça l'objectif, c'est de donner la parole à ces jeunes chercheuses et ces jeunes chercheurs en devenir. Donc on va se retrouver pendant une petite demi-heure et nous allons échanger avec eux sur leur sujet de thèse bien sûr, mais aussi sur leur parcours et sur leur quotidien, afin de mieux comprendre, eh bien, tout simplement, comment on travaille ici dans une fédération de recherche autour de la chimie des matériaux. Et aujourd'hui, pour inaugurer cette première édition, nous accueillons Pauline Saloun. Bonjour Pauline.
Bonjour à tous.
Alors tu es en deuxième année de thèse à l'UMET, l'unité des matériaux et transformations, qui est un des laboratoires de la Fédération, et en particulier dans l'équipe ingénierie des systèmes polymères. Alors tu es sous la direction de Patrice Voisel, professeur des universités centrales, à l'UMET aussi, et Gaëlle Lefer, chargée de recherche CNRS, à l'UMET également. Alors, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet en parlant de ton sujet de thèse qui s'intitule, et excusez mon accent, Covalent Organic Frameworks Polymers, du design macromoléculaire aux auto-assemblages. Alors, peut-être pour mettre un peu de contexte, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que sont des Covalent Organic Frameworks Polymers ?
Alors, les Covalent Organic Frameworks, ça va être des réseaux organiques cristallins qui vont avoir une structure rigide. Pour simplifier et vraiment essayer de faire comprendre au maximum, vous imaginez qu'on a un système de Lego. Donc, on va avoir une brique qui sera une molécule organique qui va se lier avec les autres d'une manière bien spécifique pour former un réseau avec une taille, une morphologie, une taille de pore qui va être contrôlée, et avec toutes ces possibilités de formation, on va trouver vraiment diverses applications pour ce type de matériaux. Ça va aller du drug delivery, donc libération de principes actifs, de la catalyse ou encore du stockage de gaz.
Donc il y a un peu un côté où c'est des petites capsules ou des petites structures qui viennent enfermer autre chose, une autre forme de matière.
C'est ça.
Alors, il me semble que c'est un sujet assez récent, assez novateur. Il y a un petit historique aussi autour de ces molécules-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu finalement d'où vient ce sujet de recherche et
Donc, les matériaux poreux existent depuis des millénaires. Ça a commencé avec les Égyptiens pour le charbon et ça a évolué tout au cours du temps. Et en 2005, Yagi a découvert les Covalent Organic Frameworks. Il faut savoir que ça a eu un grand essor au début, donc il y a eu énormément de travaux effectués sur ces matériaux. On compte à l'heure actuelle plus de 700 types de COF, à savoir que je travaille sur des COF boronates, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une liaison entre le bore et l'oxygène. Donc ça, c'est les premiers COF qui ont été découverts. Il y a eu énormément de travaux faits sur ces COF-là, mais ça a été très vite arrêté, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, du fait de la difficulté à travailler sur ces matériaux COF boronates.
Alors, qu'est-ce qui est difficile sur ce genre de matériaux ? Enfin, qu'est-ce qui a amené la communauté à moins travailler dessus ?
Alors, malgré le fait que ces matériaux ont des propriétés exceptionnelles, la liaison ester-boronate présente des inconvénients, notamment l'hydrolyse. Donc, le fait d'ajouter de l'eau, on va détruire notre réseau. Donc, il faut imaginer que mon matériau, ça ressemble à un nid d'abeille. On va avoir une structure hexagonale étendue. Et le fait de rajouter de l'eau, on va pouvoir casser ce réseau. Nous, ce qu'on veut, c'est absolument garder cette structure. Donc, ça va poser des problèmes. On a aussi des problèmes de reproductibilité au niveau de nos résultats. À savoir qu'en recherche, c'est quelque chose de très important. Donc, on va répéter plusieurs fois nos résultats pour être sûr. Et au niveau des COF boronates, on a pas mal de problèmes.
D'accord. Et pourtant, aujourd'hui, toi, tu travailles sur ça, donc il y a une forme un peu de... voilà, tu challenges un peu ce sujet qui semble assez difficile. Et donc, toi, spécifiquement, durant ta thèse, qu'est-ce que tu vas chercher à faire avec ces molécules ?
Donc, en effet, c'est un véritable challenge. Donc, l'idée a été de combiner la chimie des COF, donc qui est en développement, avec une chimie bien connue, celle des polymères, pour pouvoir améliorer les propriétés de ces matériaux-là. Donc le but, ça va être de greffer des chaînes polymères à l'extérieur de nos réseaux poreux et pouvoir augmenter les propriétés et en faire des matériaux à l'échelle macromoléculaire, donc à notre échelle.
Alors les polymères, tu pourrais juste peut-être préciser ce que c'est en quelques mots ?
Alors les polymères, ça va être un assemblage, il faut voir ça comme un collier de perles. On va ajouter plusieurs billes les suites à la suite des autres et ça va former des longues chaînes. On va avoir différents types de polymères, ça peut être très bien des polymères naturels ou des polymères synthétiques, mais il faut voir ça comme un collier de perles.
D'accord. Et donc là, l'idée, c'est un peu de mélanger ces deux-là, et de réussir à avoir des structures.
La chimie bien connue des polymères où on sait contrôler les longueurs de chaînes, savoir les interactions qu'on va avoir entre les différents polymères avec la chimie des COF.
D'accord. Et alors, toi en particulier, on a un peu préparé l'émission, on a un peu discuté du sujet, hein, pour ne rien cacher aux auditeurs et aux auditrices. Toi, tu vas adopter une démarche qui est plus, tu m'as dit, une démarche théorique finalement, qui n'est pas vraiment applicative. Tu ne cherches pas forcément à leur donner des applications immédiates. Tu vas plutôt faire un peu ce qu'on dit, un peu développer l'état de l'art et mieux comprendre ces molécules. Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire un peu plus sur cette approche théorique et en quoi c'est important aussi de ne pas faire que de l'applicatif finalement ?
C'est ça, en fait, il existe deux types de thèses. On va avoir les thèses qui vont être fondamentales et les thèses appliquées. Moi, au niveau de... Donc, ma thèse est une thèse fondamentale. Donc, on va essayer de développer un matériau, de développer le matériau à l'échelle nanométrique, mésométrique, pour essayer de vraiment comprendre comment on va former ce matériau, quelles propriétés on va pouvoir apporter. Mais c'est vraiment la compréhension de chaque phénomène qui est important dans ma thèse. Contrairement aux thèses appliquées, où on va avoir un matériau, on va plutôt étudier son comportement. Ma thèse, c'est vraiment de déblayer, on va dire, le terrain pour que plus tard, en fonction des souhaits du chercheur, on fasse à façon un matériau en choisissant telle ou telle propriété.
D'accord. Alors, donc il y a cet aspect théorique-là, mais pour étudier, on va dire ça, t'es pas uniquement sur un ordinateur en train d'évaluer des modèles mathématiques. C'est pas du tout ce genre de théorie que vous faites, vous
On est d'accord. Quand on pense fondamental, on pense mathématiques, calcul. Moi, pas du tout. Ça fait partie de mon travail, le traitement de données. Mais moi, j'aime surtout être à la paillasse. Et donc, du coup, je vais avoir pas mal d'étapes de synthèse et de caractérisation pour mes matériaux.
Alors, synthèse et caractérisation, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu plus du fait d'être devant la paillasse et c'est quoi des manips qui sont plus des manips de synthèse et c'est quoi des manips qui sont plus des manips de caractérisation ?
Alors, dans un premier temps, je vais synthétiser mon matériau, c'est-à-dire que je vais faire une synthèse organique avec plusieurs étapes. Et ensuite, je vais devoir caractériser le matériau. Donc, Mon matériau a diverses propriétés. C'est un matériau qui est cristallin, c'est-à-dire qu'il y a une organisation à très petite échelle. Donc, on va devoir étudier son organisation cristalline, la façon dont il est ordonné, mais également la porosité, la morphologie de ses particules. Et donc, du coup, on va vraiment caractériser par différentes techniques toutes les propriétés possibles pour mon matériau.
D'accord. Et donc, quand tu parles de synthèse, donc on est d'accord, c'est de la fabrication, en fait. C'est la fabrication du matériau. Question peut-être bête, mais est-ce qu'il y a une partie qui est plus compliquée? Genre, est-ce que c'est plus difficile de d'abord fabriquer le matériau ou c'est plus difficile derrière de l'analyser? Quelles sont un peu les différences de difficulté, de facilité, les défis de chaque étape de ce travail-là?
Alors, dans un premier temps, la synthèse a vraiment été un réel défi, à savoir que donc, je suis en deuxième année de thèse, mais j'ai fait mon stage de Master 2 sur le même sujet. Et avant moi, il y avait déjà eu deux stagiaires de Master 2, donc deux stages de 6 mois, pour vraiment mettre au point le protocole de synthèse. On a mis plus d'un an, donc ça a vraiment été une partie très très longue. Donc ça, maintenant qu'on maîtrise le protocole de synthèse, c'est bon, on peut souffler, ça va. Après la caractérisation, mon matériau est plutôt sensible à certaines choses, par exemple la lumière. Quand on va vouloir aussi caractériser le matériau en microscopie, donc on va envoyer des électrons sur le matériau, et ça par exemple, c'est un réel challenge parce qu'on a des matériaux qui sont très très sensibles, et donc souvent l'imagerie c'est sur quelques secondes pour avoir nos images.
Alors quand tu dis sensible, ça veut dire que quand il y a un microscope électronique, ça peut casser le matériau, c'est ça ou...
Alors sur certains matériaux ça peut casser, dans mon cas ça va détruire l'organisation à l'échelle atomique. Donc on va passer d'un état cristallin à un état amorphe où on va avoir quelque chose de totalement désordonné.
Donc j'imagine ça casse complètement, là tu parlais de structure en nid d'abeille, donc on perd complètement cette forme en fait.
C'est ça.
Et donc oui, donc le matériau devient complètement inutilisable.
C'est ça, souvent c'est un travail à quatre mains. On a un super ingé qui fait les réglages, et donc du coup dès qu'il me dit appuie, j'appuie, je prends l'image, et on croise les doigts pour avoir encore nos propriétés sur le matériau.
D'accord, oui, je vois. Donc c'est vrai que tu viens de parler justement de microscope électronique. Alors c'est vrai que l'Institut Chevreul propose aux scientifiques de son périmètre d'utiliser, enfin, d'avoir accès à ces gros appareils de très haut niveau technologique. Là, on est d'accord que tu utilises un des microscopes à balayage ou à transmission?
J'utilise les deux.
Tu utilises les deux, donc, dont un qui est de la taille qui fait plusieurs mètres de haut.
C'est ça.
Des infrastructures vraiment très impressionnantes pour étudier de la matière qui, elle, est très, 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 très petite. Est-ce que tu utilises d'autres techniques, on va dire, d'autres appareils qui sont présents à l'Institut?
On a la chance d'avoir énormément d'appareils au sein de notre Institut. Donc, on a un pôle diffraction des rayons X. Ça va être pour caractériser donc, la cristallinité de nos matériaux. On a aussi un gros pôle microscopie. Donc, comme tu le disais, à balayage ou à transmission. Donc, on va pouvoir voir la morphologie de nos particules. On a également un pôle haute pression. J'ai hâte de démarrer, du coup, avec mes collaborateurs pour tester nos matériaux sous haute pression. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ma thèse, c'est de pouvoir aller un peu à droite, à gauche et de caractériser de différentes façons mon matériau.
Je reviens, tu disais, donc pour les rayons X, c'est ça, tu étudiais la cristallographie, donc, c'est-à-dire la structure de tes molécules. Qu'est-ce que ça te permet un peu de vérifier finalement?
Le fait de vérifier la cristallinité, ça va me permettre de tout simplement vérifier que j'ai le bon matériau final. En fait, dans la littérature, on va avoir des références et donc on va avoir des figures où on nous dira à tel endroit on doit avoir un pic de cristallinité. Et donc du coup, moi je fais exactement la même chose, je vérifie. Et souvent, on a des petites surprises avec des nouveaux pics à caractériser. Et c'est tout un travail aussi à faire.
Donc ça veut dire, ces nouveaux pics, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose lors de la synthèse qui amène en fait à une structuration ou une organisation qui est différente et qui du coup détecte et du coup les rayons X vont détecter des choses différentes.
Le fait qu'on a une deuxième population et par exemple, on a mis en évidence la formation d'un nouveau matériau grâce à cette technique-là.
Mais alors, est-ce que ce sont... entre guillemets, des erreurs dans le processus de synthèse, quand ça arrive, ou c'est vraiment que c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'ici et vous découvrez en fait encore de nouvelles propriétés, de nouvelles possibilités sur vos matériaux?
Ça va plutôt être cette option-là. En fait, on fait la manip et on se rend compte qu'on a réussi à avoir, par exemple, deux populations bien distinctes. Ce n'était pas voulu au départ, mais du coup, à nous d'en tirer profit pour essayer de soit minimiser la présence de l'une et l'autre, ou alors, au contraire, ça ne nous gêne pas et on fait en fonction.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, si je comprends bien, sur l'étape de synthèse, vous n'avez jamais forcément à 100% la garantie d'avoir pile ce que vous espériez obtenir à chaque fois. Le processus est très, très complexe, on va dire.
On peut avoir des surprises, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Pour la première partie de ma thèse, donc sur la première année, j'ai développé un certain type de coffre, les coffres 5. Et là, on n'a pas eu de surprise sur nos matériaux. Et là, le nouveau matériau que je développe maintenant... On a eu des petites surprises qui sont plutôt bonnes et encourageantes pour la suite.
C'est ça. Oui, donc en fait, c'est dans cette volonté de créer, en fait, à chaque fois, de trouver de nouvelles formes à ce matériau-là pour le rendre plus, plus, voilà, pour, j'imagine, ouvrir davantage de possibilités sur ce qu'il serait capable de faire. Peut-être revenir sur ça d'ailleurs, sur les. Alors, c'est vrai que ta thèse est plutôt, elle est plutôt théorique, elle n'est pas forcément applicative, mais sur les possibilité d'application de ce matériau. Est-ce que toi, tu travailles un peu dessus et si c'est le cas, voilà, comment tu travailles sur ces potentielles applications?
Alors, le but de ma thèse, c'est de créer un capteur de gaz, spécialement l'ammoniac. Donc, à savoir que l'ammoniac, ce n'est pas le gaz le plus abondant, mais ça va être celui qui est le plus polluant. Et donc, c'est un gaz à effet de serre. Donc, le but de mon matériau, donc, qui a une forme un peu de nid d'abeille, c'est de venir à l'intérieur de ce trou, capturer des molécules de gaz et les emprisonner. Donc ça, on a pu le montrer par diverses études que, pour l'instant, mon travail a réussi à faire des capteurs de CO2. Le CO2 a bien été emprisonné, et donc la prochaine étape, c'est de tester avec l'ammoniac.
D'accord, ok, c'est ça. Donc on est sur l'étape d'avoir testé un premier gaz, et en fait, on teste par étape aussi.
C'est ça, on fait aussi en fonction de ce qu'il y a dans le laboratoire, et au fur et à mesure, on a de plus en plus de possibilités.
Et toujours dans cette idée, finalement, d'avoir une thèse qui est exploratoire, finalement, de tester un maximum de choses, on n'est pas à l'abri de tester d'autres gaz, d'autres molécules. Si vous avez une idée ou une envie, en fait, c'est assez ouvert, assez libre.
À savoir que le projet de départ ne partait dans cette direction, mais on dérive toujours un petit peu et en fonction de ce qu'on trouve, on arrive à avoir de nouvelles possibilités. Et c'est aussi ça ce qui est un peu exaltant, c'est de se dire qu'on ne sait pas ce qu'on va réellement trouver et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire.
Je trouve ça assez fascinant d'avoir une première idée de base et en fait de se rendre compte qu'il y a une myriade de possibilités derrière. C'est assez fascinant. Alors, tu as déjà parlé finalement d'un premier succès, hein, le fait de réussir à capturer le CO2 et puis bientôt, à mon avis, sûrement l'ammoniac aussi. Mais il y a une autre réussite aussi à ton actif qui n'est pas qu'une réussite scientifique parce que tu as été lauréate du premier prix de la Société chimique de France au GFP. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est le GFP, à quoi correspond ce prix, et puis assez important quand même, nous parler un peu de ça.
Donc le GFP, c'est le Groupe Français des Polymères. C'est une institution scientifique qui va regrouper tous les scientifiques de France dans le domaine des polymères et qui va avoir pour but de promouvoir la chimie des polymères au sein du monde académique, mais également au sein du monde industriel. Et donc, du coup, chaque année, on a le colloque national du Groupe Français des Polymères, durant lequel on va avoir des présentations sous la forme de posters et des présentations type communication orale. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour une communication orale, donc j'ai présenté durant 15 minutes mes résultats à l'ensemble de la communauté et il y avait une remise de prix pour les meilleurs posters et le meilleur oral. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'être lauréate du prix par la Société chimique de France pour mon travail.
Et puis, il y avait combien de personnes à peu près à concourir pour
Je crois qu'il y en avait une cinquantaine, ouais, à savoir qu'il n'y avait pas forcément que des doctorants qui étaient en concurrence. On avait aussi des docteurs, donc des chercheurs qui sont en post-doctorat, des ingénieurs ou encore des jeunes chercheurs.
Donc c'est un regroupement finalement, c'est un peu la messe annuelle, donc c'est quand même aussi un gros événement pour échanger des résultats, échanger sur l'actualité en fait des polymères. Donc tu as aussi eu l'occasion de rencontrer en fait toute la communauté, donc tu as peut-être rencontré à d'autres occasions également. Est-ce que ce genre d'événement, enfin qu'est-ce que ça t'apporte, comment tu vis ce genre d'événement qui est important aussi dans la vie scientifique? On n'est pas juste au laboratoire à traiter des données, on est aussi dans cette... Voilà, dans ce lien avec les scientifiques. Donc, comment est-ce que toi, tu vis tout ça?
Alors, pour ma part, j'ai fait donc différents congrès avant, mais c'était mon premier congrès polymère. En plus, c'était en France, donc c'était agréable. On a pu beaucoup communiquer avec différents chercheurs, voir des sujets qui n'étaient pas forcément identiques aux nôtres, mais du coup, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que les autres faisaient et qu'est-ce que ça pouvait aussi nous apporter. Et à côté de cela, il y a un côté vraiment humain, donc la découverte d'autres personnes, d'autres doctorants aussi. C'est l'occasion de former un groupe et surtout de se faire un réseau. Et donc, j'ai pu découvrir d'autres personnes dans différents labos et me faire un réseau et voir les opportunités après thèse.
Ouais, donc, une belle, ouais, des beaux moments, en fait, pour le monde scientifique. Et un prix qui vient récompenser beaucoup de travaux, finalement, que tu mènes. Donc, ça fait un an et demi, maintenant.
Je suis en deuxième année.
Mais j'imagine qu'avant la thèse, il y a eu tout un parcours aussi qui t'a amené aujourd'hui à être ici. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours de recherche? Qu'est-ce qui t'a amené à aimer la chimie, à en faire voilà.
Alors du coup, la chimie, c'est assez drôle parce que quand j'étais petite, pour Noël, j'ai demandé mon kit de chimiste. Et donc du coup, je l'ai eu. Et j'ai vraiment pu expérimenter à la maison avec mes parents, et c'est vraiment là où j'ai eu le goût de la chimie. Mais du coup, au fur et à mesure, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire. J'étais donc en lycée, en série scientifique, et je m'étais dit, je vais faire médecine, ça me plaît bien, et puis je me dis, je vais rendre fier à mes parents, je serai médecin. Et donc, je m'étais inscrite pour post-bac en fac de médecine, et mes parents m'ont dit, mets quand même un deuxième vœu, on sait jamais... Une licence de chimie, ça t'a toujours plu, moi je te vois bien dedans. Et donc j'ai passé mon bac et je me suis dit la pression ça va pas être pour moi. Et donc je suis allée un peu par dépit en licence de chimie parce que j'étais un peu déçue de me dire j'ai pas les épaules pour la médecine. Et donc au fur et à mesure ça a été une véritable passion. Donc j'ai fait ma licence à l'université de Lille. J'ai rencontré un prof qui est formidable, qui m'a donné le goût pour les polymères. Ensuite j'ai continué mon parcours à Rouen. J'ai fait un master biopolymère et traitement de surface. Je voulais faire au début travailler dans les polymères pour tout ce qui était santé. Donc ça rejoignait un petit peu le côté médecine pour soigner les gens. Et donc après, j'espère que mes travaux sur les matériaux poreux, comme je disais précédemment, les matériaux poreux peuvent permettre pour tout ce qui est libération de principes actifs. Et donc j'espère que mes travaux de thèse me permettront de continuer dans cette voie-là.
Et donc, tu as réussi finalement à mêler les deux passions qui t'animaient jusqu'ici.
C'est ça.
Donc, il y a moi, je trouve ça toujours inspirant, en fait, quand on voit des parcours comme ça qui progressent vers des... Enfin, qui arrivent, en fait, à toujours maintenir ce lien avec les passions initiales que tu pouvais avoir quand tu étais petite. Parce que ce n'est pas forcément facile au quotidien de réussir à croiser tout ce qu'on a envie de croiser.
C'est ça.
Alors, tu disais effectivement qu'il n'y a pas... La pression, ce n'était pas pour toi, pour la fac de médecine. Est-ce qu'une thèse, ou en tout cas toi dans ton contexte, est-ce que c'est quelque chose de stressant ou pas? Est-ce que c'est plutôt, au contraire, est-ce que c'est plutôt motivant, peut-être même à un point où parfois on ne regarde pas ses heures? Comment tu vis ça au quotidien, le fait de faire une thèse?
Alors, la thèse, c'est mille émotions. On va avoir énormément d'envie de vouloir progresser sur notre sujet, de faire des découvertes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous motive tous les jours. C'est un peu notre carburant. Mais aussi, on a des moments où ça va moins bien parce qu'on peut avoir un manque de résultats, pas ce qu'on attendait. On va avoir un peu de pression aussi parce qu'on voit autour de nous d'autres scientifiques qui vont publier sur le sujet. Donc ça peut être vraiment toutes les émotions en même temps, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien entouré pendant une thèse. Moi, c'est vraiment ce que je conseille.
Ouais, le plus important d'être entouré, de ne pas croire que la thèse est un travail seul, solitaire. On est d'accord que toi, au quotidien, en fait, tu es toujours entouré de tes directeurs de thèse, d'autres doctorants, des ingénieurs, tu en parlais aussi sur les plateformes, qui t'accompagnent dans l'utilisation des différents outils.
C'est ça. J'ai vraiment un accompagnement donc, de ma direction. Moi, ce que je conseille, par exemple, pour un futur thésard, un étudiant qui est intéressé pour faire une thèse, ça va être de vraiment bien choisir le laboratoire d'accueil, le directeur ou la directrice de thèse, un sujet. Le sujet, faut vraiment le choisir si on a une vocation plutôt académique, c'est-à-dire qu'après la thèse, on veut poursuivre et devenir enseignant-chercheur ou bien chargé de recherche au CNRS, ou alors si on veut plutôt partir dans l'industrie. Pour moi, il faut choisir son sujet de thèse aussi un peu en fonction. Et aussi, très important, c'est de s'entourer d'autres doctorants. Et je remercie ceux qui m'écoutent m'écoutent actuellement, mes amis. Parce que du coup, pendant la thèse, on a souvent des petits moments de bas et ils sont toujours là pour nous soutenir et c'est vraiment quelque chose de très, très important.
Oui, il y a un peu un esprit promo finalement, un peu comme en licence ou en master. Quoi. Ça continue finalement, on reste à la fac et ça reste comme ça. C'est vrai que tu disais de bien choisir son sujet de thèse, c'est vrai que ça semble important de ne pas juste faire une thèse pour faire une thèse. Peut-être que tu pourrais nous préciser un peu plus ce qui, toi, t'a intéressé dans ce sujet-là en particulier et pourquoi tu t'es impliqué en fait dans ce sujet-là.
Alors moi, ce qui m'a vraiment motivée, ça a été le côté challenge. Quand j'ai lu un peu l'offre de stage, il était précisé qu'il y avait un financement de thèse derrière. Donc moi, je voulais essayer de déblayer le terrain et c'est ce que j'ai fait du coup. Mais c'est le côté vraiment nouveauté de ce sujet qui m'a donné envie de revenir et de continuer sur cette voie-là.
Et donc là, tu arrives en deuxième année de thèse, tu as déjà des premiers résultats. On a un peu évoqué le fait que peut-être tu vas utiliser de la pression de ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler sur la fin de la thèse? Qu'est-ce que tu ambitionnes de faire jusqu'au bout finalement? Soyons un peu rêveurs, hein, j'ai envie de dire. Hein. Essayons de rêver grand.
Alors du coup, pour la fin de la thèse, mon but, c'est d'essayer de découvrir encore un max de choses sur mon matériau. Là, on a fait donc la... C'était une première mondiale, on a réussi à mettre des polymères avec nos coffres. Donc du coup, ça a été vraiment une grande fierté. Et pour la suite de la thèse, moi j'envisage plutôt de partir dans le monde industriel ou alors, si j'ai la possibilité de faire un postdoc dans tout ce qui est plutôt médical, en combinant les propriétés matériaux poreux et les médicaments. Et ce serait plutôt tout ce qui est étranger. À savoir qu'en France, si on ne veut pas faire de l'enseignement, le doctorat, c'est de mieux en mieux, mais le doctorat n'est pas forcément très bien reconnu. C'est de mieux en mieux par rapport à ce qui était avant, où on préférait un ingénieur à un docteur. On a une amélioration, mais pour moi, je préférerais partir à l'étranger
aussi.
Canada, ça me tente bien.
Eh bien écoute, merci beaucoup Pauline d'avoir pris le temps de partager ton expérience de doctorante et de nous avoir expliqué ton sujet de recherche qui semble passionnant en tout cas.
Merci à toi de m'avoir invité.
Et je remercie aussi René Lavergne et toute l'équipe de l'émission Quoi de Neuf et de Radio Campus Lille pour nous donner la possibilité d'avoir cet échange en direct. Et le mois prochain, nouveau grond dans l'espace à la recherche de poussière d'astéroïdes avec Sylvain Laforêt pour révéler comment la matière cosmique nous en apprend plus sur nos origines. Bonne soirée à toutes et à tous.